Aujourd'hui marque la fin du pèlerinage de Téné. La grand-messe de clôture s'est déroulée ce matin à Bouraille. Elle était présidée par l'archevêque de Nouméa, Mgr Sione Poé. Le top départ de la New Caledonia Group à Marais a été donné ce matin. 23 bateaux sont engagés dans ce tour de Calédonie à la voile, sans escale et sans assistance. Bonne fête papa, repas de fête et petite attention seront au programme pour de nombreuses familles calédoniennes pour faire de ce jour un moment unique. Israël attaque, l'Iran répond et ainsi de suite. Les échanges de tirs entre les deux pays se sont accélérés ces dernières heures et avec eux, le nombre de victimes augmente. Ce n'est pas la pluie qui allait arrêter les participants au trail des Cagous à Bouloupari. Entre paysages sauvages et performances sportives, la course est déjà un grand succès. Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal. Avant de développer tous ces titres, ce week-end est endeuillé par un nouveau drame sur nos routes à Wailou. Les circonstances de l'accident sont encore floues. Nous ne savons pas si l'homme était le conducteur ou le passager du véhicule. Les secouristes sont parvenus à extraire la victime de l'habitacle, mais sans pouvoir le réanimer. Cet accident porte à 16 le nombre de morts sur les routes calédoniennes depuis le début de l'année 2025. Et puis la nuit dernière à Dumbéa, l'école Victorien Bardou a été dégradée. Des individus ont tagué les murs de l'établissement avant de s'enfuir. La gendarmerie recherche toujours les auteurs des faits. Actualité religieuse, les fidèles étaient nombreux à assister à la messe de clôture du traditionnel pèlerinage de Téné. Au total, plus d'un millier de Calédoniens se sont réunis autour du thème du jubilé 2025. L'espérance ne déçoit pas. Pour la première fois, c'est l'archevêque de Nouméa, Mgr Sione Poé, qui a célébré la messe.
Aujourd'hui, c'est une grande fête. Et c'est toujours une fête de joie, ensemble avec le diocèse, avec la jeunesse. En ce jour où nous célébrons la Sainte Trinité.
Quel est le message que vous avez voulu faire passer à travers votre homélie aujourd'hui?
Mais c'est surtout sur notre vie de chrétien, a pour objectif d'entrer en lien avec la Sainte Trinité, qui est un mystère d'amour, de rentrer dans cette circulation d'amour trinitaire, de vivre la communion, de savoir tisser le lien avec les uns des autres pour bâtir une société plus juste, plus fraternelle.
Et bilan positif également du côté du président du comité Marche pour Notre-Dame de Téné, Simon-Pierre Séluy.
Un bilan plus que positif et joyeux, puisque nous voyons aujourd'hui, après une semaine de réflexion sur le visage des jeunes, nous ne pouvons que ressentir la joie et le sourire. Nous pouvons dire que le rendez-vous a été toujours respecté et nous tenons à remercier l'ensemble de tout le diocèse. L'invitation est d'ores et déjà lancée. Nous nous retrouvons déjà l'année prochaine.
Des propos recueillis par Kéline Daboakou. Je rappelle que plus de 1000 Calédoniens ont participé cette année au pèlerinage de Téné. Le top départ de la New Caledonia Group Amareis a été donné ce matin. Il s'agit du plus grand événement de voile sur le territoire. Et Michael Juneski, l'aventure a débuté pour les participants.
23 navires qui se sont élancés dans le lagon pour un tour de Calédonie à la voile sans escale. 19 bateaux locaux, mais aussi 2 néo-zélandais et 2 australiens, dont les tenants du titre sur ces 654 000 nautiques, 1200 km autour de la Calédonie. Rush Hour, victorieux en 2022, qui avait gagné l'épreuve en 3 jours, 13h47 minutes et 38 secondes. Après de multiples reports donc 3 ans d'attente, la 7e édition affiche un taux de participation record et le public aussi était nombreux ce dimanche matin pour vivre aux environs de 10h en direct le départ au large de Nouméa en face du rocher à la voile. Ambiance.
Vous allez voir les bateaux prendre de la vitesse, ils vont passer devant nous à toute allure.
Il fallait pas louper ce départ. Voir les copains sur les bateaux et puis profiter du spectacle, c'est pas tous les jours. Ça met du baume au cœur de voir tout ce monde sur l'eau.
On est venu très tôt, déjà pour profiter un peu de la vue. Et après on a décidé de marcher et je me suis dit que ça serait sympa de venir.
Il faut taper dans les mains pour se réchauffer, c'est ça?
C'est ça, c'est ça. Bah oui, j'aurais raté ça pour rien au monde. Hein. Des sports comme ça, quoi, où les gens ils se surpassent, c'est cool, quoi.
Je faisais les régates du mercredi soir et du coup, je voulais voir la groupe avant. Ça ouvre le monde de la voile à plus de personnes, c'est intéressant.
C'est sympa, tout le monde est ensemble, donc c'est convivial et chaleureux, donc c'est sympa. Même s'il pleut, on est bien.
Jumelles dans les mains pour suivre ce départ, c'est ça?
Absolument, oui.
Alors ça va, on arrive à voir de plus près, ça vaut le coup d'œil?
Oui, bon, ça nous permet d'être dans la course. Ça le fait du jour.
Allez, ça va être parti. Le départ est parti de cette 8e édition de la Coupe Amarès. On veut du bruit, du bruit, du bruit, du bruit, du bruit. Bravo, 840 marins.
Trop bien que les bateaux ils font la course. Super vite.
Bien, bien. Et puis on a eu la chance, on n'a pas eu trop de pluie, quoi.
C'est super, c'est une belle manifestation et c'est sympa. Malgré le temps, mais il y a du monde et ça fait plaisir.
Super, c'est la première fois que je participe à un départ de Groupama Race. Ça vaut le coup de venir. On n'est pas des trucs de bateau, mais voilà, on aime ça.
Belle organisation, la météo qui va bien, tout est réuni. Là, ils vont être un peu chahutés, mais c'est ce qu'ils aiment.
Beau départ, ça valait le coup de se lever le matin, même s'il y avait du mauvais temps, j'avoue.
Trop chouette, malgré la pluie, mais oui, on... C'est très, très cool de pouvoir voir cet événement. Ouais, c'est joli de voir toutes les couleurs des voiles. C'est cool qu'il y ait du vent aussi pour eux.
Un départ en fanfare donc pour cette 7e édition de la New Caledonia Groupama Race. Alors au dernier pointage, eh bien c'est le néo-zélandais de V5 monocoque skippé par Brian Peterson qui était en tête en direction du phare Amédé, le premier cap à atteindre obligatoirement dans cette New Caledonia Groupama Race. L'ensemble de la flotte est évidemment encore au contact, même si certaines options devraient assez vite disloquer les groupes de bateaux avant de prendre la direction du Grand Sud.
Nous sommes le dimanche 15 juin et c'est évidemment le dimanche de la fête des pères. Et les papas seront gâtés aujourd'hui. À cette occasion, des cadeaux et des petites attentions. Illustration avec des témoignages recueillis au marché municipal de Nouméa.
La fête des pères, le 15. On va aller chercher du pain et je vais faire des dessins. Là, je vais aller les faire.
C'est cool, la fête des pères. On va surtout faire plaisir à sa maman puisque c'est les femmes qui contrôlent. Hein, tu sais, on est là pour elles.
C'est la fête des papas.
Aujourd'hui, on va faire le plat que notre papa il voudra avec les parents à mon père.
On va cuisiner de la salade de poisson.
C'est un plaisir. Préparer un petit repas. Pour...
La fête des pères.
T'as pu bien souhaiter la fête des papas, toi, aujourd'hui?
Oui. Papa, il joue toujours avec moi.
Les papas sont donc à l'honneur ce dimanche et pour la fête des pères, RRB a choisi de mettre en lumière des pères calédoniens dont le rôle de parents a été challengé par les projets de leurs enfants. Des enfants devenus sportifs professionnels et qui brillent à l'international, qui sont ces pères qui ont beaucoup appris à leurs enfants mais ont aussi grandi avec eux, Michael.
Et oui, pas facile de quitter la Calédonie pour entamer une carrière sportive, notamment en métropole et encore moins sans le soutien de ses parents. Si Yolène Yengo est aujourd'hui connue notamment pour ses performances au sein de l'équipe de France de rugby à 7 et à 15, elle n'était pourtant qu'une jeune fille lorsqu'elle a commencé à s'intéresser à ce sport. À l'époque, ses ambitions ont pu effrayer son père, Jean Yengo, qui a finalement beaucoup appris sur son rôle de parent aux côtés de sa fille.
Ben, au début, ça n'a pas été facile pour nous. Le fait que le rugby, c'est un sport, on ne pratique pas tellement. Elle avait commencé à participer. Puis à un moment donné, elle nous demandait qu'elle voulait aussi faire sa licence dans le rugby. Moi, en tant que parent, je lui ai dit, écoute, c'est quoi ce genre de sport? Parce que pour nous, c'est un sport qui est un peu brutal, quoi. Puis j'ai un peu peur pour elle. Je n'ai pas donné mon accord, mais elle a toujours insisté. Je lui ai dit, écoute, si c'est le sport que tu veux vraiment pratiquer, ben écoute, ben vas-y alors, si ça te plaît. Elle a commencé dans ce sens, puis voilà, elle s'est améliorée. Une leçon qu'on peut en tirer, c'est être aussi à l'écoute de nos enfants. Parce que des fois, il nous arrive si souvent, toujours, surtout dans le milieu mélanésien, c'est d'être un peu autoritaire, d'être toujours au-dessus de la volonté de nos enfants. Mais en fin de compte, donc, il faut les laisser s'émerger, il faut les laisser grandir et prendre des décisions eux-mêmes pour leur avenir. Et en fin de compte, quand ils leur voient s'épanouir, ben, c'est votre fierté.
Une expérience de la parentalité qui a fait grandir le père comme la fille. Pour Yoram Moefana, à présent champion d'Europe récemment avec l'UBB et membre du 15 de France, l'histoire est différente. La passion pour le rugby lui a été transmise par sa famille. Pas de surprise donc lorsqu'il a quitté Futuna pour la métropole à l'âge de 13 ans. Aujourd'hui, son père, Taofi Fenoua Falatea, président du club de Dimbéa, observe le parcours de son fils avec beaucoup de fierté. Un parcours qu'il a toujours suivi depuis la Nouvelle-Calédonie.
Transmis, c'est un gros mot, mais c'était mon projet à moi, en fait, avant. C'est pour ça que je suis encore plus fier, parce que j'ai l'impression, en tout cas, que c'est lui qui le réalise. En tout cas, pour moi, en tant que parent et papa, bah, c'est toute une fierté. J'étais tendance au départ, il y a 2 ans, d'être très strict. Et je me suis rendu compte, en fait, que mes remarques sévères, c'était pas productif. Maintenant, on échange en étant cool et puis de l'aider, en tout cas, sur ce qui marche très bien. Et pour le moment, ça marche super bien et je suis content parce que ça me permet aussi de m'améliorer. Je sais pas si vous êtes au courant, mais j'ai jamais vécu plus d'un mois avec mon fils. À chaque fois, c'est 2-3 semaines quand il venait en vacances et quand j'étais en France pour me lancer une carrière. Il venait de naître en 2000. Personnellement, c'est quelque part une façon à moi de me rattraper. Bien sûr, ça va pas remplacer en tout cas les moments physiques, mais je sais que moi, en fait, ça me remplit plein de choses parce que je me dis que j'ai été aussi à un moment donné, en fait, un père absent. J'aimerais bien profiter sur ces dernières années, le vivre directement en France, donc... Pour la fête des pères, en tout cas, moi, je vous cache pas, j'ai mon cadeau. Il est champion d'Europe et c'est le Graal quand même.
Et voilà pour ces quelques témoignages de pères de sportives et sportives dans le haut niveau, des propos recueillis par Charlotte Coulson.
Et nous vous proposons ce midi d'entendre encore un poème. Ce sera celui de Philippe au micro de Kélinda Boiscou.
En cette période des fêtes, j'avais dans la tête de vous offrir un cadeau. J'en ai pas couvé dans ces beaux. C'est un petit poème juste pour vous dire à quel point je vous aime. Bonne fête, papa.
Et voilà pour cette bonne fête au papa calédonien. Et sur Radio Rythme Bleu, l'antenne était à vous ce matin avec toutes vos dédicaces dans l'émission spéciale Canal Folie, comme tous les dimanches de 8h à midi. Toutes vos dédicaces à l'antenne pour une très belle fête des pères. Midi 12, première pause dans ce journal avant de voir le reste de l'actualité sur le territoire. À tout de suite.
Du mardi au vendredi à 6h20 et 11h15 et le samedi à 8h, écoutez l'édito d'Europe 1 avec le village automobile PK4 à Nouméa. Le village automobile, c'est un lieu unique qui regroupe un parking d'occasion, un magasin de pièces de rechange d'origine, un atelier de réparation normes constructeurs et aussi 11 grandes marques de véhicules neufs avec des offres exceptionnelles.
Les 1000 premiers jours de vie, c'est là que tout se joue. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie lance un appel à projet pour soutenir les futurs et jeunes parents, de la grossesse jusqu'aux 2 ans de l'enfant. Vous êtes une association, une personne ou une société? Vous avez un projet innovant pour accompagner les parents en situation de vulnérabilité pendant cette période clé de la vie? Les dossiers doivent être déposés au plus tard, le 27 juin 2025. Plus d'informations sur www.gouv.nc. Ceci est un message du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
La suite d'Info Weekend, on retrouve Léana Colombo.
Pour Nicolas Metzdorf, la libération de Christian Théien a fait l'effet d'une bombe. De retour de Paris depuis quelques jours, le député de la première circonscription était vendredi midi l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence.
Et Nicolas Metzdorf a d'abord été interrogé sur la décision de la cour d'appel de Paris qui a prononcé la remise en liberté du leader de la CCAT, même s'il reste mis en examen pour complicité de tentative de meurtre et destruction en bande organisée.
C'est incompréhensible. Christian Théien, il est responsable de la CCAT et du soulèvement de l'insurrection qu'il y a eu le 13 mai dernier et qui a détruit l'économie calédonienne et la vie de milliers de Calédoniens. Donc libérer Christian Théien à quelques encablures de l'ultime négociation sur l'avenir du pays est un très mauvais message envoyé par la justice française. La deuxième chose, c'est que Christian Théien, il n'est pas acquitté, il n'est pas gracié. Christian Théien, il est sorti de sa détention provisoire, mais il reste mis en examen pour des chefs d'inculpation graves. Il est sous contrôle judiciaire et il ne peut pas quitter le territoire métropolitain pour rentrer en Nouvelle-Calédonie. Donc ce n'est pas une victoire politique ni judiciaire de Christian Théin.
Christian Théin est toujours soupçonné d'être responsable des émeutes, insiste Nicolas Metzdorf, à qui il a été demandé s'il pensait que le président du FLNKS allait participer aux discussions sur l'avenir.
Je ne sais pas, on va bien voir, mais ça c'est nous une condition qu'on pose à l'État tout de suite. C'est-à-dire que moi, à titre personnel, et je suis sûr que l'ensemble des loyalistes suivants, moi je n'irai pas à la table des négociations avec Christian Théin. On a déjà fait beaucoup d'efforts pour quelques négociateurs indépendantistes qui sont aujourd'hui autour de la table, il ne faut pas trop nous en demander quand même.
Le député de la première circonscription a ensuite été interrogé sur sa rencontre avec le président de la République à la fin du mois de mai et sur ce qu'il retient de cet entretien.
On peut retenir plusieurs choses. Un, c'est qu'il reprend le dossier. Moi, c'est ce que je lui ai demandé. J'ai dit, attention, nous, aujourd'hui, on a un ministre des Outre-mer qui a pris position pour l'indépendance association de la Nouvelle-Calédonie, donc pour les indépendantistes. Pour nous, c'est quand même rédhibitoire pour la suite des négociations. Donc, on a besoin aujourd'hui du président de la République dans le dossier calédonien, puisqu'on touche à l'intégrité du territoire de la République française. La deuxième chose, c'est que ce qu'on sait et ce que le président de la République m'a dit, c'est que le prochain statut de la Nouvelle-Calédonie sera dans la France, parce que les trois référendums sont actés. C'est d'ailleurs ce qu'il a rappelé lors de sa déclaration à Nice. Il y a eu trois référendums qui maintiennent la Calédonie dans la République française, donc ça, c'est un fait. Donc je pense qu'on peut retenir deux choses. Un, c'est le président de la République qui pilote le dossier. Deux, le futur statut sera dans la France.
Le sommet sur la Nouvelle-Calédonie aura lieu début juillet. Et en plus de la séquence institutionnelle, il y aura une séquence économique et sociale, précise le député de la première circonscription. Très sévère envers le ministre des Outre-mer, Nicolas Metzdorf reproche par ailleurs à Manuel Valls, comme à Marine Le Pen, de sous-estimer les non-indépendantistes.
Ce sont des gens qui pensent que la Nouvelle-Calédonie, ce sont des indépendantistes kanak et des autres qui sont arrivés comme ça, par hasard, un peu perdus, sans histoire, sans racines, sans culture, sans conviction, et qui sont un peu là pour faire de l'argent et accumuler des biens en Nouvelle-Calédonie. Mais attention, les non-indépendantistes en Nouvelle-Calédonie, c'est une population majoritaire, c'est une population qui s'est toujours mobilisée depuis 40 ans pour défendre la Calédonie française. Et donc, on ne peut pas arriver et leur expliquer que, finalement, il faut peut-être réfléchir à être intelligent avec des gens qui ont tout cassé, parce que, de toute façon, l'histoire et le chemin un peu automatique qu'a la Nouvelle-Calédonie, c'est l'indépendance. Attention, nous, on a des valeurs. On vient d'une grande civilisation, quand même. La démocratie, pour nous, ça veut dire quelque chose. L'état de droit, pour nous, ça veut dire quelque chose. La sécurité et l'égalité entre tous les citoyens, ça veut dire quelque chose. Donc, Marine Le Pen, elle ne peut pas arriver avec une forme de condescendance et expliquer aux Calédoniens, victimes des émeutes, ce qui serait bon pour eux. Je trouve qu'elle nous a sous-estimés. Et c'est toujours l'erreur que font les élites parisiennes, c'est qu'ils nous sous-estiment. Et à chaque fois, après, ils sont surpris de nos réactions et de notre combat. Donc j'espère pour eux un jour qu'ils arrêteront de nous sous-estimer, parce que pour l'instant, l'histoire nous donne raison. La Calédonie, elle est toujours française et elle va le rester.
Le député de la première circonscription exprime aussi sa préoccupation pour la situation économique et il explique que son rôle comme membre de la commission des finances de l'Assemblée nationale, c'est de s'assurer que les crédits de l'État sont maintenus pour la Nouvelle-Calédonie. Il se dit aussi très soucieux de la filière nickel, dont il a parlé avec le ministre de l'Industrie, Marc Ferrazzi, notamment pour évoquer la SLN après les déclarations de Christelle Bory sur le désengagement des ramettes.
Les engagements que j'ai eus jusqu'ici, c'est que, évidemment, tout allait être maintenu jusqu'à temps qu'un nouvel éventuel repreneur soit présent. Je trouve que ce qui se passe sur la filière du nickel aujourd'hui est aussi une opportunité. Moi, j'aime bien voir aussi le verre à moitié plein. Je trouve que ça fait quelques années déjà qu'Eramet ne réinvestissait plus dans l'outil calédonien et l'État qui aujourd'hui paye à la place d'Eramet. Donc, à un moment donné, il faut aussi que on aille chercher des personnes qui croient au nickel calédonien et qui n'aient pas peur d'investir. Donc je pense qu'aussi, on va profiter des discussions institutionnelles à Paris pour voir ce qui est possible de faire sur la filière nickel, sur l'ensemble du territoire calédonien. Je pense qu'on a aujourd'hui l'opportunité d'avoir une véritable stratégie de nickel à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie qui puisse rapporter de l'argent.
Nicolas Metzdorf rappelle aussi qu'aujourd'hui, la Calédonie vit uniquement de l'argent de la France et, pour lui, on ne peut pas déconnecter la question institutionnelle de la question économique. L'État ne continuera pas à financer la Calédonie, quel que soit son statut politique. Il en a notamment parlé à son collègue Emmanuel Tchibao.
Je lui ai dit, attention Emmanuel, tu demandes plus d'autonomie à la Nouvelle-Calédonie, mais dans le même temps, tu t'inquiètes des frigidaires vides de la population calédonienne. À un moment donné, ça ne marche pas ton truc. Parce que quand on va dire, imaginons qu'on prenne ton projet d'État associé. Si tu crois qu'au moment de l'arbitrage à Bercy, le ministre des Finances va dire, écoutez, il ne me reste que 2 milliards à répartir sur les territoires d'outre-mer, qui va répartir équitablement les 2 milliards d'euros entre les départements d'outre-mer, entre les collectivités d'outre-mer, entre les territoires d'outre-mer et à la fin, entre cette espèce d'État associé bizarroïde, mais les 2 milliards d'euros, on n'en verra pas la couleur. Et sur les compétences régaliennes qu'on aurait, nous, Calédoniens, qu'on déléguerait derrière à la France, comme par exemple, je sais pas moi, la sécurité. Croire qu'on aurait le même nombre de gendarmes et de policiers qu'aujourd'hui en étant un État associé, c'est faux. Moi, je le vois bien à Paris. Ils cherchent 40 milliards d'euros d'économie. Si nous, on prend le risque d'être plus autonome, d'être plus indépendant, on va en payer les conséquences concrètes pour le quotidien des Calédoniens. Aujourd'hui, il faut comprendre que tous les services publics que vous voyez autour de vous, ce que font les communes, ce que font les mairies, ce que fait la province, ce que fait le gouvernement, c'est grâce à l'argent de la France qui est arrivé.
Le député de la première circonscription affirme enfin être plutôt serein avant de reprendre les discussions sur l'avenir. On va à Paris, dit-il, pour chercher un bon accord pour la Nouvelle-Calédonie, un accord qui sera dans la France. Fin de citation.
Une interview de Nicolas Metzdorf qui sera rediffusée dans son intégralité ce soir, juste après notre édition de 17h45. Elle est aussi disponible en audio et vidéo sur notre site internet rrb.nc.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu. À Boulou Paris, Saraméa, La Foy, Moindou, Farino, c'est le sang.
À la une de l'actualité internationale, de nouveaux échanges de tirs ont eu lieu entre Israël et l'Iran. Le bilan provisoire est de 14 blessés dans la région près de Raïfa, au nord d'Israël, à la suite de tirs de missiles iraniens. Parmi les victimes, une jeune femme d'une vingtaine d'années. De nouveaux immeubles d'habitation ont également été touchés. L'armée israélienne tente d'intercepter les missiles tout en menant de nouvelles frappes, notamment sur la région de Téhéran. Plus tôt dans la journée, Israël avait poursuivi ses attaques contre des sites militaires et nucléaires iraniens. Une installation souterraine de lancement de missiles située dans l'ouest du pays avait notamment été ciblée, tout comme un dépôt de carburant. L'ambassadeur d'Israël en France, Joshua Zarka, était l'invité d'Europe 1 Soir Weekend et il n'a pas manqué de dénoncer la différence de stratégie entre l'offensive israélienne et la riposte iranienne.
Nous serons sûrs que l'Iran ne pourra pas reprendre son programme et ne pourra pas le remettre sur pied dans une courte période. Nous nous arrêterons, mais bien sûr, ça dépend aussi de la réaction de l'Iran. Parce que on a vu cette nuit, l'Iran nous a attaqué nos civils. Nous, ce que nous avions fait, c'était attaquer spécifiquement, nous avons décapité, disons, les militaires iraniens et nous avons attaqué les infrastructures militaires. Ce qu'ont fait les Iraniens, en revanche, c'est d'attaquer le plus de civils possible pour tuer le plus d'Israéliens possible. Ce qui va nous obliger a changé un peu de tactique. J'imagine que cette nuit va être une nuit difficile pour les Iraniens. Pas pour le peuple iranien, mais pour le régime iranien.
L'ambassadeur d'Israël en France, Joshua Zarka. Notez que le président iranien a opposé une fin de non-recevoir à Emmanuel Macron. Le chef de l'État avait invité son homologue à revenir rapidement à la table des négociations sur son programme nucléaire. Finalement, l'Iran a annoncé qu'elle cessait de coopérer comme auparavant avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. De nouveaux pourparlers devaient avoir lieu avec les États-Unis à Oman autour du programme nucléaire iranien, mais les discussions ont finalement été annulées. Aux États-Unis, une élue démocrate de l'État du Minnesota a été tuée avec son mari à leur domicile la nuit dernière pour nous. Selon les premiers éléments de la police, ce couple aurait été délibérément visé. Rémi Amalvi, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis.
Oui, le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, a dénoncé un meurtre politique. Melissa Ortman, 55 ans, était élue et ancienne présidente de la Chambre des représentants de cet État du nord du pays. Elle et son mari ont été tués par balle alors qu'ils se trouvaient chez eux dans la localité de Brooklyn Park. Un autre élu démocrate, le sénateur John Hoffman et sa femme ont également été ciblés. Ils ont, eux, survécu à l'attaque. Le tireur est toujours activement recherché. Selon la police, il s'est présenté au domicile de ses victimes habillé en uniforme de policier. Il conduisait également un SUV qui ressemblait à un véhicule de police équipé d'un gyrophare. Le véhicule a été retrouvé. La police y a découvert une liste de noms de politiques et de fonctionnaires locaux, ceux qui corroborent la thèse de l'assassinat politique. Donald Trump a aussitôt dénoncé une attaque terrible et il a précisé que le FBI se joignait à l'enquête. Ce double meurtre intervient alors que Donald Trump s'apprête à assister à une grande parade militaire, la plus importante du pays depuis plus de 30 ans, un défilé organisé le jour même de ses 79 ans. Le président américain se serait inspiré du défilé des Champs-Élysées du 14 juillet auquel il avait assisté en 2017.
Rémi Amalvi, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. En parallèle de cette parade militaire, près de 2000 rassemblements ont été organisés autour d'un cri de ralliement « No King », soit « Pas de roi », pour protester contre la politique de Donald Trump. Et un mot de l'actualité en métropole. Au deuxième jour du congrès du Parti socialiste, Olivier Faure a été officiellement réélu pour un quatrième mandat à la tête de son parti. Il obtient 51% des voix à l'issue des comptages définitifs contre un peu moins de 49% pour son adversaire, le maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol. La victoire d'Olivier Faure avait déjà été actée depuis la semaine dernière, mais les chiffres n'intégraient pas le vote de certains territoires d'outre-mer. Midi passé de 25 minutes, seconde pause et on voit tout le sport.
Le prochain rendez-vous des aidants se tiendra le lundi 16 juin dans la salle d'honneur de la mairie de Nouméa. Le Lions Club et le CCAS vous attendent à partir de 17h30 pour un moment d'échange sur le thème « Je t'ai connu, mais je ne te reconnais plus », animé par une psychologue clinicienne. Si vous êtes aidant, venez trouver du soutien.
Jusqu'au vendredi 27 juin, gagnez un Samsung S25 128Go et son support aimanté pour la voiture. Cadeau d'une valeur de 110 990 francs, offert par Mobilemania. Pour jouer, c'est facile. Envoyez chance au 40-20. Tirage au sort le 27 juin à 14h, 371 francs le SMS. Toutes les actus sur Facebook, téléphonie, informatique et multimédia. Mobilemania, c'est 5 magasins. Magenta, Centre-Ville, Place des Cocotiers et Galerie Nouméa Centre, Sainte-Marie et Robinson. Mobilemania, vivez mobile. Pour jouer, envoyez chance au 40-20. Et sur Radio Rythme Bleu, il n'y a pas de jour sans jeu.
Tout le sport en trois lettres, RRB. L'actualité sportive, on retrouve Léana Colombo.
Et nous avons évoqué dès le début de ce journal le départ de la New Caledonia Groupama Race. Les navigateurs se sont donc élancés ce matin pour le Tour de Calédonie à la voile, sans escale et sans assistance. Et bien entendu, nous continuerons de vous faire vivre le périple des différents équipages jusqu'au dénouement. Un coup d'œil au reste de l'actualité sportive, c'est aujourd'hui que se déroule le Trail des Cagous, Michael Juneski.
Épreuve organisée cette année à Boulou-Paris, 4 parcours proposé. On signalera déjà sur l'épreuve de 24 km terre de running la victoire d'Alexandre Bressy tout comme Natalia Prado chez les féminines. Sur le 11,5 km à Cabot, c'est Abdelkader Djebali qui a terminé premier. Il était surpris par sa performance.
C'est parti vite parce qu'on n'avait pas trop le choix. C'était pas très large et très glissant. J'ai même entendu des mecs derrière moi qui disaient super, au bout d'un kilomètre, le podium il est joué. J'ai dit comme, au bout d'un kilomètre, le podium est joué, bravo. Et puis, à peine compte, on a eu un peu des biches, on a eu un peu de tout. Super panorama, super parcours. Les mecs, ils ont sacrément bossé, bravo à eux.
Et enfin, le Trail Sfac de 62 km. L'épreuve reine est encore en cours, mais on signalera déjà ce succès d'Antoine Barguin qui a bouclé l'épreuve en 6h19 minutes et 51 secondes devant Gabriel Espada et Leslie Novicki, troisième et meilleure féminine. Du foot aussi, la quatrième journée de Super League. Le leader du groupe B, l'AS Magenta, s'est incliné face au CA Saint-Louis 2 buts à 1. Tiga a de son côté battu l'AS Mondor 3 buts à 2 pour le compte du groupe A. Aujourd'hui, Horizon Pato affrontera l'AS Gaïcha dès 13h à Nouméa Delhaye. Hors du territoire, le début des championnats de France de natation et Maxime Grousset qui remporte sans surprise la finale du 50 mètres papillon en battant son propre record national sur la distance 22 secondes 70 centièmes. On signalera qu'un autre Calédonien plus jeune encore, Ethan Duménil, a terminé 6e de cette même finale élite et chez les plus jeunes toujours, Chrisander Serda qui a quant à lui fini 5e de la finale C. Une médaille d'argent pour la Calédonienne Célia Farr qui, après les Océanias de karaté, participait à la Coupe de France Zone Sud. Elle a terminé à la deuxième place chez les juniors de moins de 66 kilos en métropole. Et puis, des jeunes Calédoniens qui se sont distingués au championnat de France en e-sport cyclisme en métropole. Raphaël Beaugilet, associé au licencié du VCC Mondor Hugo Pommelet, a terminé avec la médaille d'argent. Une deuxième place également pour Juliette Perrochet, pilotée par Maïlis Bonas, également du VCC Mondor.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu. À Dimbéa, c'est le 98.
Sur la scène nationale, du rugby avec les phases finales du top 14.
Et les barrages d'accession en demi-finale, le RC Toulon qui a fait plier Castres pour continuer l'aventure. Succès des Toulonnais sur le score de 52 à 23. Toulon qui rejoint donc l'Union Bordeaux-Bègles en demi-finale. L'autre match du dernier carré se disputera entre Bayonne et Toulouse. Et puis dans le barrage de maintien dans l'élite, Perpignan est parvenu à sauver sa place en top 14 en battant Grenoble 13 à 11.
On passe au sport mécanique avec la Formule 1.
Vos stations Shell et Pacifique, partenaires des pages spéciales Grand Prix de Formule 1 sur Radio Rythme Bleu.
Et les qualifications pour le Grand Prix du Canada, c'est le Britannique George Russell qui a signé la pole position.
Le pilote Mercedes, meilleur temps pour sa première pole position de la saison. Il devance la Red Bull de Max Verstappen et la McLaren d'Oscar Piastri, le leader du championnat du monde. Lewis Hamilton, l'ancienne star des Flèches d'Argent, désormais sous les couleurs de la Scuderia, s'est classé quatrième. En revanche, Charles Leclerc, sur l'autre Ferrari, est parti à la faute. Il termine seulement avec le huitième temps.
Avec ces voitures-là, sur un circuit comme Montréal où il y a des rails, quand on a une voiture à 2 secondes, 1 seconde devant, on perd tout l'appui aérodynamique et c'est extrêmement compliqué de conduire la voiture. Et j'ai perdu l'arrière dans le 6. J'étais très frustré parce qu'en plus de ça, je pense que jusqu'à là, on se battait pour la pole. J'ai pas forcément regardé le tout, mais en tout cas, le feeling était extrêmement bon. Donc je suis déçu. Mais bon, après, on peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes. On est parti, je pense, un peu trop tôt dans la Q3. Et j'ai fait l'erreur. Ça aurait été mieux de perdre un dixième dans un virage que de pas finir le tour.
Et le départ de ce Grand Prix du Canada sera donné demain matin à 5h, heure de Nouméa.
C'était votre page spéciale Grand Prix de Formule 1 parrainée par Shell et Pacific. Shell, un nouveau partenaire innovation de la Scuderia 2025. Sélectionnez le meilleur pour votre véhicule.
Et on voit le reste de l'actualité sportive sur la scène internationale en bref.
Et ouais, les sports mécaniques encore avec les 24 heures du Mans Auto qui ont débuté la nuit dernière à 1h du matin pour nous. Ce sont les Ferrari qui prennent la tête de l'épreuve jusqu'à la nuit prochaine. Du cyclisme, nouvelle victoire de Tadej Pogacar sur le critérium du Dauphiné. Il remporte la 7e étape et conforte sa place de leader avec 1 minute d'avance au classement général sur le Danois Jonas Vingegaard à la veille de l'arrivée. De l'escrime avec Eva Lacheray et Rémi Garrigue qui ont été sacrés pour la première fois de leur carrière champions d'Europe, l'une au fleuret et l'autre au sabre. Et puis sur l'US Open de golf, l'américain Sam Burns est en tête à 4 coups sous le par. Le français Victor Pérez est retombé en 11e position.
Merci Mickaël Juneski.